Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage en public le vendredi. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique funky? Nous sommes le 14 février, l'heure n'est pas au funk, mais au love. Oui, avec ce sens du contre-pied qui fait notre singularité, nous avons choisi, contre toute attente, de faire aujourd'hui une spéciale Saint-Valentin. Mmh. Une émission entièrement dédiée aux affres de Cupidon, à la douceur d'aimer et d'être aimé, au romantisme sous toutes ses formes. 2 heures aussi pour vous aider à préparer la soirée, pour surprendre votre conjoint, votre conjointe. Vous avez encore le temps, mais au-delà des petites attentions, le cadeau, le dîner, je vous conseille déjà de réfléchir à une belle phrase que vous pourriez dire à l'être aimé et qu'il n'oubliera jamais. Eva, une idée ?
Bah, viser la bouche.
Mesdames et messieurs, Eva Rock.
Bien, ça commence bien, c'est classe.
C'est l'émission, ouais, 100%
c'est
romantique aujourd'hui.
C'est pour moi, vraiment.
C'est
je suis tellement heureuse.
Tout à l'heure, Eva, vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe
on
à la télé
voir,
ce soir.
Oui, c'est ça, on va essayer.
Mais j'espère qu'on ne regarde rien ce soir à la télé, que vous avez d'autres plans. Quand même.
Bien sûr, je vous ai préparé une petite playlist Love, que pour vous.
Que pour moi.
Ouais.
Mais d'abord, accueillons notre invité d'honneur pour cette spéciale Saint-Valentin. Je l'ai appelée hier, un peu à l'arrache, j'avoue. Je ne savais plus si elle était en couple ou pas. Je lui ai dit, tu fais quoi pour la Saint-Valentin demain? Elle me répond,
je regarde l'ardive des ch'tis à Bangkok.
J'ai compris qu'elle n'était pas overbookée en ce moment niveau mec et qu'elle serait dispo. Tonnerre d'applaudissements pour Bérangère Krief.
Bonjour.
Bonjour Bérangère, vous êtes actuellement au théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris du jeudi au dimanche dans un spectacle intitulé Sobrement mais efficacement Amour. Ma première question est brutale mais incontournable vu le thème de votre spectacle. Qu'allez-vous faire ce soir, j'entends, après le spectacle?
Bah, je ne sais pas. Alors, je précise que je suis amoureuse.
Et que... c'est peut-être une surprise qui vous attend.
Je ne sais pas. Peut-être. Je n'en sais rien. Vraiment, je me laisse porter.
Et ça vous plaît, le concept de la fête de Saint-Valentin? Parce qu'il y avait vraiment deux camps. Hein.
Ouais. Mais moi, je crois que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fêté. Il y a quand même un côté. Bon, eh ben, c'est aujourd'hui qu'on est sympa et qu'on se fait des cadeaux. Donc, voilà, j'ai dû le fêter la dernière fois. Je devais être en terminale. Et ça m'a beaucoup plu. Ouais.
Ah, mais donc, grand
moment. J'attendais beaucoup à l'époque. Ouais.
Oui, petit à petit, au fil de nos vies, nos exigences diminuent. Pour la Saint-Valentin, on s'attend.
Oh, vous allez faire la tête si vous n'avez pas un cadeau, vous, ce soir.
Ah, c'est vrai, le message est lancé. Alors, Bérangère, on va évidemment parler d'amour, votre spectacle et celui avec un grand A. Le temps de vous rappeler que l'équipée sauvage est avant tout une compétition. Chaque après-midi, au service de notre culture G, les meilleurs journalistes d'Europe 1 se foutent joyeusement sur la gueule. Un seul sera élu chroniqueur du jour à l'issue d'un vote combiné du public, des auditeurs et de l'invité. La récompense, cette sublime couronne en plastique made in Wuhan. Qui l'emportera? Voici nos deux premiers concurrents du jour face à vous, Bérangère. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on l'a mis face à vous. Clairement, l'atout charme de l'équipe est sauvage. En observant Nicolas Carreau, l'expert littérature d'Europe 1, alors qu'il pénétrait dans ce studio, Bérangère, fatalement, vous vous êtes dit...
Hé, il y a du monde dans le slip, là.
Non, Bérangère, non, c'est la Saint-Valentin. Vous vous êtes dit, quelle classe, ce garçon, au regard lumineux, doit être sacrément cultivé. Bonjour, Nicolas Carreau.
Bonjour. Grande classe, Mathieu.
Ah bah toujours, j'ai décidé de tout donner aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour notre spécial Saint-Valentin, une chronique extrêmement pragmatique.
Oui, si vous êtes en manque d'inspiration, eh bien je vais vous donner des punchlines littéraires pour dire l'amour.
Ah, mais est-ce qu'on dit qu'on les a pompés chez des auteurs ou pas?
Ah bah ça c'est comme vous voulez, d'accord. Si vous êtes honnête ou pas, quoi. Mais ça risque de s'entendre.
Ça risque de s'entendre quand même. Hein. Ouais. Si le truc est un alexandrin, tu sais, normalement ton mec sait que tu parles pas en alexandrin.
C'est de moi.
Je te confirme. À vos côtés, Bérangère Krief, il nous revient des bas-fonds du classement desquels il a réussi à un peu s'extirper la dernière fois en glanant un tout petit point. Sa réaction ce jour-là, totalement disproportionnée, vous donne une idée de sa situation sur l'échelle de la loose.
Ouais! Je romps la spirale de l'échec.
Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour.
Une spirale de l'échec dans laquelle vous pourrez bien retomber aujourd'hui, puisque le jour de la Saint-Valentin, vous avez choisi de nous parler d'un divorce.
Oui, parce qu'il faut se souvenir de cette statistique. Un mariage sur deux termine par un divorce, donc il n'y a pas de raison qu'on oublie aujourd'hui la moitié des gens malheureux.
Okay. Il va nous faire aimer l'amour. Merci Emmanuel Duteil, le programme est donné, notre hymne à l'amour peut commencer.
L'équipe est sauvage.
Elle parle d'amour tous les soirs sur scène. Elle était donc la plus qualifiée pour nous accompagner un jour de Saint-Valentin. Bérangère Krief, ça fait 2-3 ans que vous n'étiez pas montée sur scène, si je ne m'abuse.
Exactement.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2-3 ans? Justement, vous avez vécu l'amour pour
énormément
pouvoir vous inspirer.
De choses. Non,
pour
j'ai pas tellement vécu l'amour tout de suite, je dirais. Non, j'ai fait dans l'ordre grosse rupture, mini dépression, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, stage en Ardèche de développement personnel.
Ah, ça, ce que vous racontez, c'est vrai?
Ouais, tout est vrai dans le spectacle.
Non,
c'est
pas
ça
tout.
Si, si.
Et moi, j'avais un doute.
Ah, on voit la chose encore différemment.
Non, mais c'est intéressant. Je ne sais jamais si les gens comprennent que tout est vrai.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on comprend pas, mais souvent, les artistes ensuite brodent un peu. C'est-à-dire qu'ils s'inventent. Le truc en Ardèche, je pensais que c'était un...
Ah non, non, non. Le stage, je n'en ai pas fait qu'un. J'ai fait une grosse introspection. Et puis, j'avais envie de prendre le temps de vivre aussi, dans mon écriture, de savoir vraiment ce que j'avais envie de faire. Enfin, je sais pas.
Justement, est-ce que c'est pas triste de reconnaître ça, d'admettre ça, mais c'est vrai, ce truc qu'il faut en baver un peu dans la vie pour ensuite être créatif.
C'est une bonne théorie, parce que souvent, je pense qu'on met du temps à d'abord voir le positif dans l'échec. Donc il y a toute la partie où on en bave, c'est là où on n'accepte pas l'échec. Moi, j'ai pendant longtemps dit « Oui, c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi? C'est toujours les mêmes, gnagnagna. » Et après, il se passe des choses. Mais tant qu'il y a cette lutte, ça peut durer longtemps en plus. Hein. Et pour moi, dans la vie, on a le choix entre traiter son ex de connard pendant toute sa vie ou en faire quelque chose. Et c'est vrai que ces échecs-là, ils sont importants. Et on n'est pas obligé d'en chier, je pense. Je ne pense pas ça, mais je pense qu'on peut tirer profit de tout ce qui nous arrive. Ouais.
Et surtout, Eva, essayez de vous en souvenir, on n'est pas obligé de traiter son ex de connard. Il faut savoir avancer. C'est la leçon de Bérangère Krief, notre invitée jusqu'à 18h. En ce 14 février, je me suis dit que ce qui pourrait être utile, c'est de demander à Nicolas Caro, notre dandy littéraire, de nous lister les citations d'amour les plus romantiques afin d'éblouir ce soir celui ou celle qui partage notre vie. Ah, je suis sûr qu'il y aura du Stendhal, du Flaubert, peut-être une pincée de Mallarmé. Mais vous, Nicolas, c'est quoi votre réplique préférée à la fin de dîner de Saint-Valentin ?
It ain't over till it's over.
C'est pas fini tant que c'est pas fini.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe sauvage spéciale Saint-Valentin en public et en Bérangère Krief. 2 heures pour vous aider à préparer votre soirée aux chandelles. Soirée romantique où il vous faudra peut-être, messieurs, esquiver finement certaines questions sur l'engagement de long terme.
Pourquoi tu ne veux pas avoir d'enfant ?
Et quand j'ai voulu adopter cette jeune Suédoise de 18 ans ?
Les femmes sont parfois si exigeantes. Heureusement, notre premier concurrent du jour, l'érudit Nicolas Caro.
C'est quel film ?
Ah, je révèle mes sources. Bon, c'est très compliqué en même temps. Y a-t-il un flic pour sauver la reine ou le président ? Heureusement, notre premier concurrent du jour, l'érudit Nicolas Caro, dont la légende dit qu'il a connu bibliquement toutes les femmes de la rédaction d'Europe 1.
Pour éviter la consanguinité.
Bien sûr, par altruisme. Nicolas Caro, donc notre premier concurrent du jour, va nous refiler quelques citations sublimes qui nous permettront de briller ce soir.
Voilà, si votre punchline c'est « Ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux »,
tu peux rentrer chez toi.
C'est mal barré. Il y a mieux, des phrases, des sorties, des vers, des poésies travaillées, ciselées par des maîtres, des écrivains. Edmond Rostand, par exemple, quand il parle du baiser, c'est dans Cyrano, écoutez.
Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce ? Un serment fait d'un peu plus près ? Une promesse plus précise ? Un aveu qui veut se confirmer ? Un point rose qu'on met sur l'i du verbe aimer, c'est un secret qui prend la bouche pour oreille. Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille. Une communion ayant un goût de fleur. Une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter au bord des lèvres là.
Alors, on parlait tout à l'heure de... Est-ce qu'on révélait que la citation était de nous ou pas ?
Oui, alors là,
si vous
sait,
sortez
là.
Ça ce soir, je pense que vous êtes grillé tout de suite.
Mais c'est compliqué à placer dans la conversation quand même, Nicolas.
Il faut bosser un peu, ouais.
Ah oui, il faut bosser, hein.
Oui, d'accord.
Vous essayez de prendre toute la citation.
On peut
déjà se goûter au bord des lèvres l'âme. C'est beau,
oui,
rien
c'est
que
beau.
Ça.
Oui, mais évitez de me regarder comme ça quand vous le dites. un petit peu.
J'ai du Brautigan aussi, Richard Brautigan, c'est plus moderne. Brautigan qui disait d'ailleurs « Toutes les filles devraient avoir un poème écrit pour elles, même si nous devons pour ça retourner cette bon dieu de planète sans dessus-dessous. » Et voici un de ses poèmes à sortir éventuellement ce soir. « Je me souviens de toi, buvant un coca. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un buvant un coca pourrait être un beau poème. » Paf. Alors, vous pouvez adapter avec martini, jus d'orange, kir, ça marche aussi. En plus académique, vous avez du Victor Hugo, c'est toujours efficace. Alors pour celui-ci, il faut habiter Paris ou une grande ville, c'est dans les contemplations. Il lui disait, vois-tu, si tous deux nous pouvions, l'âme pleine de foi, le cœur plein de rayons, ivre de douce extase et de mélancolie, rompre les mille nœuds dont la ville nous lie, Si nous pouvions quitter ce Paris triste et fou, nous fuirions, nous irions quelque part n'importe où, chercher loin des vains bruits, loin des haines jalouses, un coin où nous aurions des arbres, des pelouses, une maison petite avec des fleurs, un peu de solitude, un peu de silence, un ciel bleu, la chanson d'un oiseau qui sur le toit se pose, de l'ombre, et quel besoin avons-nous d'autre chose ?
Ça fait un long SMS, ça. Hein. Ah oui, ça, faut derrière, aussi. Tu renvoies pas un petit smiley, quoi. Tu es obligé de développer un peu, quoi.
J'en ai un petit dernier, si
il
vous voulez.
Il l'a écrit dans les emboutes, non ?
Parfois, faut faire simple, ou faussement simple, comme cette lettre, ce texto, si vous voulez, d'Alfred de Musset à George Sand. « Mon cher Georges, j'ai quelque chose de bête et de ridicule à vous dire. Je vous l'écris sottement au lieu de vous l'avoir dit, je ne sais pas pourquoi, en rentrant de cette promenade. Vous allez me rire au nez, me prendre pour un faiseur de phrases. Vous me mettrez à la porte et vous croirez que je mens. Je suis amoureux de vous, je le suis depuis le premier jour où j'ai été chez vous. »
Beau gosse de Musset.
Beau gosse de Musset. C'est quoi la plus belle phrase qu'on vous ait dite, Bérangère?
Non.
Mais j'ai envie de dire, Bérangère, si tu peux permettre.
J'ai souvenir d'un ex qui m'a dit « Ma voiture, elle dort là où je dors. » Et là, c'était gênant. C'est le seul truc qui m'est revenu, c'est triste. Hein.
Mais je vous conseille, conseille le compte sur Instagram Amour Solitaire, où il y a les gens qui mettent des extraits de SMS, d'échanges de textos.
Amour
c'est
solitaire.
Absolument, ouais, c'est absolument sublime, c'est franchement. C'est sur Instagram.
C'est sur Insta.
C'est un compte, ouais.
Ça a été publié en livre, d'ailleurs.
Ouais, exactement.
Merci beaucoup, Nicolas Carreau, Emmanuel Duteil. Un mot sur la chronique de votre rival?
J'en ai rien à faire.
Le ton est donné. Europe 1. À suivre, ma chère Bérangère Krief, un être hors norme. Pour vous situer à quel point il évolue dans une autre dimension, c'est quelqu'un qui nous a dit un jour...
Oui, je pense que vous faites tous comme moi le matin, vous regardez l'actualité de la famille Grand-Ducale sur leur compte officiel.
Non, personne ne fait ça
ce matin parce que vous savez que c'est leur anniversaire de mariage. Au Grand-Duc et à la Grande-Duchesse, ils s'étaient mariés le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et ils l'ont fêté ce matin sur Instagram.
Le type a déjà touché le fond de la piscine, dégaine la pelle, le marteau piqueur pour aller encore plus bas. Emmanuel Duteil, chef du service éco, mais dont la vraie passion est Stéphane Bernienne, vous l'avez compris, les rois et les reines. Or, Emmanuel est tout chose, car la couronne britannique fait face à un nouveau divorce. Oui, j'étais obligé de dramatiser avec un effet sonore parce que, bon, on s'en fout un peu. Vous le saurez, ce qui se passe à Buckingham, juste après Céleste, Stop This Flame sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Son spectacle parle d'amour, je cite, de Tinder au cirque plein d'air. Je crois qu'elle a choisi l'émission adéquate.
Ah ouais.
Bérangère Krief est dans l'équipe est sauvage cet après-midi. En public, vous l'entendez? Vous parlez, Bérangère, de Tinder dans le spectacle. Est-ce que vous connaissez un Marmite Love? C'est un truc assez dark sur lequel on a inscrit Eva Rock, qui, je crois, ne le regrette pas.
Marmite Love,
ouais. Marmite Love. C'est maintenant que je raconte cette histoire.
Bah, vous la racontez en plusieurs fois, mais là, vous pouvez déjà nous dire en deux mots ce que c'est.
Alors, Bérangère, cher public, chers auditeurs, mes les camarades de cette équipe, enfin camarades, ces enfoirés de cette équipe, ont trouvé très judicieux de m'inscrire sur un site de rencontre qui s'appelle Marmite Love, c'est-à-dire l'alliance entre Love et les gens qui aiment faire la bouffe, ou en tout cas qui aiment manger.
D'accord.
Voilà. Okay. Alors en vrai, c'est quand même que des psychopathes. Hein, et la suite de l'histoire, c'est pour
après. Le mec t'envoie la recette de son bœuf bourguignon pour te draguer ou pas,
ouais, ouais, ben, ça.
Si ça avait été ça, au moins, ça aurait été informatif.
Il y a des
caractère.
Photos un petit peu aussi. Et...
Allez-y, continue.
Très bien. Alors Bérangère, votre spectacle Amour, c'est du jeudi au dimanche au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Et c'est pas un spectacle de stand-up conventionnel, hein, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est qu'on vous retrouve assise sur un cerceau aérien dès l'ouverture du rideau. Et régulièrement dans le spectacle, d'où vous est venue cette idée? Déjà, ça paraît dangereux, non? Enfin,
Alors, ça s'est fait en deux temps. C'est-à-dire que pour le spectacle, j'avais envie de... pas de m'éloigner du stand-up, mais de rajouter des émotions. On avait le rire, mais je voulais aussi que, voilà, il y a la musique, donc on traverse des émotions. Et l'émotion du cirque, ça m'appelait. Je me suis dit, quand je vois un acrobate qui fait un truc et je me dis, oh, il va peut-être tomber, etc. Bah, je vois que ça a marché,
oui,
parce que vous avez eu peur.
Ah, oui, oui.
Donc je me dis, bon, c'est cette émotion-là que j'ai voulu aller chercher. Et puis après, je suis passée à la pratique et je me suis dit, oh, oh, mais
bonne
c'est
idée.
Extrêmement dur. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir beaucoup travailler. Et j'avais besoin, je crois que le cerceau, c'est aussi la symbolique du dépassement de soi. C'est-à-dire que voilà, je ne savais pas faire du cerceau, je me suis dit, ok, je vais faire ça.
Ah, vous n'aviez jamais fait, c'est même j'en pas un truc jamais... que vous
non,
saviez
non,
faire.
Non,
vous
c'est même pas, regardez, je fais un petit... Non, ouais. Non, c'est vraiment, j'ai appris pour le spectacle et j'avais besoin de dire que parfois c'est difficile dans la vie de traversé des choses, mais que voilà, à chaque fois que je monte sur le cerceau, je suis quand même contente d'avoir réussi.
Et c'est ce que vous dites et aussi un peu, c'est sortir de sa zone de confort en fait,
ouais.
À la fois en amour, dans la vie en général.
Oui,
et donc ce cerceau symbolise tout ça.
Ouais, il y a trouver son équilibre, sauter, ça fait peur, traverser ses peurs, etc. Et pour moi, c'est ce qui se passe pour tout en fait, toutes les décisions qu'on prend dans la vie. Donc voilà, le cerceau, plutôt que de le dire avec des mots, dépassez-vous, faites des choses, je me suis dit, bon, je vais faire du cerceau moi. C'est une expérience que je propose. Et j'ai l'impression que le message passe.
Est-ce que c'est un spectacle qui vous réconcilie avec les hommes? Enfin, pas tous en général, mais avec ceux que vous avez connus et...
Déjà, c'est vraiment pas un spectacle... Enfin, c'est le spectacle de l'après-thérapie. Donc, effectivement, j'ai fait la paix, non pas avec les hommes, avec beaucoup de choses. Et donc, j'ai essayé de faire un spectacle... Je sais même pas si c'est pour, contre, avec les hommes. C'est pour tout le monde, quoi. J'ai une rupture, je pense que c'est pas genré.
C'est sûr qu'on s'y retrouve tous dans
voilà,
ce spectacle.
Donc voilà, j'ai raconté simplement mon histoire. Et oui, je remercie les hommes qui m'ont brisé le cœur, oui.
Eva, pour finir sur une note plus optimiste et montrer que les relations hommes-femmes sont quand même belles, un mot pour les hommes de votre vie?
Bande de gros cons.
On les embrasse tous. Enfin, ceux qui sont encore en vie.
Européen.
Longtemps, il a été déchiré entre sa passion pour l'économie et son obsession pour les chapeaux de la reine d'Angleterre. Il semblerait que depuis quelques semaines, Emmanuel Dutheil ait enfin tranché entre The Economist et Point de Vue. Aujourd'hui, il nous reparle encore des pipoleries à Buckingham. Alors Dutheil, God save the Queen, mais surtout, God save your carte de presse. Et ça risque d'être plus qu'autant. It's gonna be more cartoon for you. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez l'équipe est sauvage en public le vendredi. Et en public survolté puisqu'on fête aujourd'hui la Saint-Valentin. Alors, que votre statut Facebook soit célibataire, en couple ou alors comme Eva...
Oula, c'est compliqué, hein.
Vous êtes tous les bienvenus pour célébrer la fête de l'amour avec l'humoriste de l'amour, Bérangère Krief, tous les soirs du jeudi au dimanche. Et non, pas tous les soirs du jeudi au dimanche, ça ne veut rien dire cette phrase.
Ouais.
Et non, du jeudi au dimanche, au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Pourquoi d'ailleurs du jeudi au dimanche? Vous avez yoga les autres jours? Qu'est-ce qui se passe?
Ben non, c'est ce qui se fait. Et puis ben, quand on fait du cerceau, franchement, je suis pas mal contente de récupérer un peu du lundi au mercredi.
Le spectacle s'appelle Amour, c'est un spectacle qui vous ressemble à 100% puisque vous l'avez écrit toute seule, contrairement au premier. Là, c'est à 100% vous.
Ouais, en fait, ce spectacle, pour moi, c'est un après-rupture. C'est qu'est-ce qu'on peut faire de sa rupture. Donc, il a fallu que je vive la mienne, que je la digère. Et aujourd'hui, je propose de peut-être changer les choses parce que j'ai l'impression que tout le monde est un peu en galère. Se dire, ça marche jamais, c'est jamais le bon, qu'est-ce qui se passe, ça foire tout le temps. Et ça propose de reprogrammer
Eva,
son...
Eva,
opine du chef. Non, mais ça reprogramme son mécanisme amoureux.
Mais je me suis demandé si vous n'avez pas toutes les copines qui vous appellent pour avoir des conseils coach love maintenant.
Si, j'étais très longtemps la coach. Non, c'est vrai que j'étais souvent celle qui avait aussi qui en avait bavé, j'ai fait l'expérience de la douleur. Donc c'est vrai que ce spectacle là il était pour moi j'avais envie de parler, j'avais envie de dire des choses et voilà, je l'ai fait
et c'est très réussi. À vos côtés, ma chère Bérangère, un homme frétille. On n'a pas vu un journaliste excité comme ça depuis Léon Zitrone commentant le mariage de Fabiola et du roi Baudouin de Belgique en 1960. Sauf qu'aujourd'hui, Emmanuel Dutheil, c'était vraiment ça, un mariage. Ce n'est pas d'un bon mariage.
Il n'y a pas très longtemps.
Ah oui, paix à son âme, Fabiola. Aujourd'hui, Emmanuel, pour la Saint-Valentin, vous auriez pu nous parler d'un beau mariage. Non, vous nous parlez d'un sale divorce.
Oui, déjà, on m'avait à la base demandé de faire une chronique sur le business de la Saint-Valentin. Donc j'ai dit non, je vais rester sur mes têtes couronnées.
Bravo.
C'est ça qui me permet
c'est
de gagner des points.
C'est l'homme qui a dit non.
Voilà, c'est l'homme qui a dit non. Alors, pourquoi j'ai envie de vous en parler cet après-midi? Vous connaissez tous William, Harry, sont à peu près bien en ménage. Là, il n'y a pas trop de soucis. Vous ne connaissez sûrement pas Peter Phillips. Est-ce que vous connaissez Peter Phillips?
Pas du tout.
Eh bien pourtant, c'est le plus âgé des petits-fils de la reine d'Angleterre. C'est le premier des petits-enfants de la reine d'Angleterre. C'est le fils issu du premier mariage de la princesse Anne, qui est donc la fille de la reine d'Angleterre. Et il vient d'annoncer son divorce.
Mais il a quel âge?
Il a 42 ans.
Ah non, oui, je pensais qu'il était beaucoup plus âgé.
Quel âge il a?
42 ans.
Ah oui, d'accord.
Il était marié depuis quelques années avec une dénommée Autonne, hein, c'est comme ça. Ils ont deux filles.
On sent une pointe de mépris.
Bon, je sais pas, je n'ai pas trouvé ça très joli, non?
Autonne,
elle est canadienne.
Pas, une belle saison. Elle est canadienne comme si c'était une excuse qui justifiait le prénom ridicule.
Non, mais attendez, parce que là, vous allez encore me faire perdre, on va encore finir en fou rire. C'est mal barré cette histoire. Selon le Sun, et c'est là que ça devient intéressant, certains amis suggèrent que c'est à cause du Mexit, donc vous vous souvenez, hein, quand Meghan et Harry ont décidé de quitter la famille royale, que ça a précipité la décision d'Autonne de divorcer. Ça allait n'allait pas bien depuis un bout de temps, mais elle a voulu elle aussi sortir du carcan de la famille britannique. En tout cas, semble-t-il, concernant les enfants, eux, ils veulent rester assez modernes. Donc, concernant les ruptures, c'est ça que j'ai aussi trouvé intéressant. Ils veulent faire de la coparentalité. Donc, ils veulent vraiment continuer à éduquer ensemble leurs enfants. Donc, pour ça, ils vont continuer à vivre pas trop loin, même si elle, elle va retourner quand même de temps en temps au Canada.
En fait, il s'est passé plein de trucs dans les relations hommes-femmes pendant toutes ces années. Mais pas dans la famille royale, en fait.
Voilà, et tout à coup,
mais on peut divorcer.
Il découvre tout d'un coup.
Ah putain, ouais, d'accord. C'est incroyable.
Peut-être sourire à l'échangisme. Qui sait.
Mais non, non, c'est vrai.
N'allons pas tester ce genre de choses.
Vous nous dites que c'est le plus grand des petits-fils de la reine d'Angleterre, mais pourquoi personne ne le connaît?
Parce qu'il n'a pas de titre et il n'a jamais représenté la famille royale. Et ben, c'est ça qui est très intéressant, puisque ses parents ont refusé qu'il ait un titre de courtoisie à sa naissance. Et c'était la première fois depuis environ 500 ans qu'un petit-fils d'une famille royale britannique n'était pas titré avec un titre de courtoisie. Donc c'était volontaire qu'il soit un peu à côté de la famille.
Pourquoi?
Parce que les parents ne voulaient sûrement pas le mettre sur le devant de la scène, justement. Surtout qu'ils savaient très bien qu'il ne serait pas roi, puisque par définition, c'était les enfants du prince Charles qui allaient devenir roi. Donc, dans tous les cas, il serait toujours à côté de la famille royale. Il est 15e aujourd'hui dans l'ordre de succession, donc il faudrait quand même un grand malheur pour qu'un jour il arrive sur le trône.
Une épidémie.
Un
avion.
Je suis pas sûr que le coronavirus suffise à le mettre sur le trône. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment un nouveau coup dur quand même pour la reine, puisqu'on dit qu'elle est très triste, qu'elle aime bien également ce petit-fils. Et pourquoi c'est un nouveau coup dur? Parce qu'il y a donc eu Meghan et Harry, et il y a également eu le prince Andrew, autre fils de la reine d'Angleterre, qui lui, on va pas le refaire pour une énième fois, mais a été mis au banc de la famille royale, puisqu'il a eu des petits problèmes avec le financier américain Jeffrey Epstein. Il est lui-même soupçonné d'avoir peut-être couché avec des jeunes filles qui n'étaient pas tout à fait volontaires pour le faire.
Sens de l'euphémisme d'Emmanuel Dutheil.
Vous savez, dans ces moments aujourd'hui, il faut faire attention à tout ce qu'on se voit.
Et il n'y a pas un petit mariage à se mettre sous la dent?
Ah, voyons, vous lisez bien les relances, bravo, vous faites presque mine d'être intéressé.
Mais, et Dutheil, tu sais que j'ai un point aussi, je peux essayer de ne pas te le donner.
Tu me l'as donné trois fois les dernières fois, donc c'est terminé, je pense. Mais oui, il y a un mariage, Béatrice, petite fille de la reine d'Angleterre et fille justement d'Andrew. Mais parce que rien ne va du côté de la famille britannique, même là c'est compliqué, puisqu'elle a dû patienter pour pouvoir se marier, parce que justement son père étant au banc de la famille royale, compliqué de faire un grand mariage, du coup elle fonce à cacher dans les jardins de Buckingham. Elle n'a droit qu'à la chapelle Saint-James, pas trop de télé, rien du tout. Pourtant, elle a un joli mari qui s'appelle Eduardo Mappelli Mozzi, qui est un Italien, très riche en plus, star de la jet set pendant quelques temps. Mais voilà, même là, ce sera un mariage en catimini. C'est triste quand même.
Je sens que Bérangère est effondrée.
Non, mais peut-être qu'elle est contente de ne pas avoir.
Non, parce que sa sœur a eu un super. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'autre, c'est Eugénie. Elle a eu un mariage superbe dans la même chapelle que le prince Harry. Donc tout le monde s'attendait aussi à ce que Béatrice ait les mêmes droits, les mêmes avantages. Et là, non, elle, hop, en cachette.
Reportage dans les buissons de Buckingham.
C'est le 28 mai, je crois.
Le 28 mai, et vous êtes invité.
Malheureusement, non.
Avec tout ce que vous faites pour la monarchie, franchement.
Les pouilleux restent hors de l'église.
On remercie Emmanuel Dutheil. Votre chronique mérite-t-elle les 3 points? En tout cas, elle n'aura pas mon point. Nos auditeurs vont savoir d'ici 18h. Europe 1. En interne, on l'appelle The Brain. Le cerveau, pour ceux qui, comme elle, ne seraient pas bilingues. Chaque jour, dans l'épreuve du quiz qu'il oppose à l'invité, Eva Rock fait l'étalage d'une culture G et d'une puissance analytique qui n'est pas sans rappeler Einstein quand il était chaud. Acteur dans la série Pas de pitié pour les croissants, Eva Rock.
Cabu?
Ah mais non, Cabu et Corbier, c'est proche.
Tremblay, Bérangère Krief, The Brain arrive.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est irradié par l'excitation inhérente à la Saint-Valentin que je vous accueille dans l'équipe est sauvage en public et avec Bérangère Krief aujourd'hui. Une émission 100% love avec ma fidèle complice Eva Rock, qui elle n'est pas à 100%. Et pour cause, hier soir, pour elle, la nuit a encore été longue. De dancing en dancing, de cabaret en cabaret, de peep show. Bref, la nuit fut longue et une fois de plus pleine de surprises, puisqu'en ayant encore forcé sur le ginto, Eva n'a encore pas fait gaffe à qui elle ramenait à la maison. Et le matin, au réveil, quand elle s'est retournée dans son plumard, ce fut la stupéfaction.
C'est Véronique Sanson ? Oh mon dieu !
Eva, rafraîchissez-vous la laine, convoquez vos neurones à un grand meeting. On va avoir besoin de tout le monde car c'est l'heure du quiz.
Voilà, mon dieu.
Bérangère Krief pour le duel du jour qui vous oppose à Eva. Évidemment, nous allons parler d'amour. C'est un quiz spécial Saint-Valentin. C'est un vrai faux. Une bonne réponse, un point. Eva Rock, si on peut vous trouver sur le site de rencontre de ceux qui aiment cuisiner, Marmite Love, sous le pseudo SexySoca69, il existe une autre application.
C'est vrai.
Une autre application de rencontre pour trouver l'amour grâce aux plaques d'immatriculation de voiture.
Non.
Vrai ou faux?
Mais ça, quel est l'intérêt?
Dans les embouteillages.
Mais oui, mais tu...
c'est débile.
Non, je pense que c'est faux parce que. Non, c'est faux.
C'est faux. Et puis, surtout, non, mais là, pour une fois, vous êtes sûr de vous. C'est-à-dire que voilà.
Je suis toujours sûr de moi.
Voilà.
C'est faux.
Et donc, c'est une mauvaise réponse, c'est vrai.
Mais écoute,
c'est un
possible,
site français, Carimat. Vous êtes dans les bouchons. Une jolie blonde est à l'arrêt.
Ah, c'est pas bête en même temps.
Vous rentrez dans l'application le numéro de sa plaque. Si elle est inscrite sur le site, vous pouvez discuter avec elle. Et alors envisager une rencontre par choc contre par choc.
Mais ils sont quatre sur ce site ?
Et ils remettent que c'est interdit de textoter au volant ou pas ?
Ah, ouais,
ah
c'est ça.
Ça doit être précisé en petit avec un astérisque. Attention,
trop de draguer, pas trop, parce que sinon ça va faire boum.
Bérangère Krief, pour mieux vendre ses Kellogg's Cornflakes, l'inventeur des célèbres céréales, John Harvey Kellogg, avait imprimé sur les premiers paquets que manger tous les jours les produits Kellogg's en couple garantissait un mariage sans divorce. Vrai ou faux ?
Je pense que c'est vrai parce qu'il y a un truc de Kellogg's, il a fait des trucs
anti-féministes
un peu chelous.
Ça c'est terrible. C'est terrible parce que c'était le bon raisonnement et la mauvaise réponse.
Ah bon ?
Parce qu'on va, je vais vous dire ce que c'est, donc c'est faux. C'est pas vraiment ça. Puisqu'en tant que médecin, John Harvey Kellogg garantissait que manger des Kellogg's calmait les pulsions sexuelles et limitait les envies de masturbation.
Oh, ça mérite un point.
Ça
quand
mérite
même,
un point,
franchement.
C'est presque pareil en fait.
C'était un piège quoi.
On donne le point à Bérangère.
Ah oui, évidemment.
Oui, alors, petite info en plus sur John Kellogg, il avait lui-même adopté tous ses enfants pour ne pas avoir à toucher sa femme.
C'est pas vrai.
Ça, c'est.
Il était super et on bouffe ses céréales depuis 1000 ans.
Et, ouais.
Et franchement, il est vraiment pas assuré ce mec.
On peut rappeler son nom ?
Bah, Kellogg.
John Mais non, mais c'est
se marquer sur les boîtes.
Mais qu'il est bête, ça. C'est un. Vous êtes bête.
The Brain a encore frappé.
Mais non, mais. Alors, vous êtes con alors. Eva,
puisque vous êtes chaude, Eva. Nouvelle question. Eva Rock, Bérangère Krief. Ayons une pensée pour Ben Barne. C'est un Australien musclé de 31 ans. Et pour lui, la Saint-Valentin sera un jour particulier. Pourquoi ? Trois propositions. Un, il est en couple avec une milliardaire et lui était SDF il y a 2 ans. Deux, il est en couple avec des jumelles, du coup il va falloir faire 2 cadeaux identiques. Ou trois, il est en couple avec une femme qui est en fait un homme depuis le 1er janvier. Et comme c'est un militaire qui était parti en mission, ça a été une sacrée surprise.
Ah oui, moi je prends la troisième là. J'aime
la troisième,
ça.
Le militaire.
Ah oui, le militaire.
Ah, moi je veux choisir ceci.
Ah oui.
J'aimais bien la première moi.
Il est en couple avec une milliardaire alors qu'il était SDF avant.
Ouais.
Ça serait une belle histoire.
Ouais.
Mais non. Et vous n'avez pas la bonne réponse.
C'est les jumelles, c'est les jumelles.
Il vit depuis 9 ans avec Anna et Lucie. Elles ont dépensé déjà 250 000 dollars pour être parfaitement identiques. Elles s'habillent toujours pareil, mangent exactement la même chose, dans les mêmes proportions et prennent leur douche ensemble. Quand il en embrasse une, il faut vite qu'il embrasse l'autre. Elles veulent... acteur studio. Elles veulent même tomber enceinte en même temps. Il va falloir être très rapide à ce moment-là. Allez les voir sur leur Instagram. Anna Lucie de Sink, c'est assez spécial.
Mais alors attends, j'ai pas compris, c'est des vraies jumelles ? Pourquoi 250 000 balles pour ressembler à sa sœur si on est des vraies jumelles ?
Bah, ça, c'est qu'elles aient vraiment aucune imperfection.
C'est très cher. Mais moi, ma mère a une sœur jumelle. Je vais vous dire qu'il n'y a pas besoin de 250 000 balles pour qu'elle s'ensemble.
Pour 25 euros, c'est gagnant.
Ah bah, 2 tenues chez HM, on les reconnaît pas.
Et le monsieur, il a la santé hein, pour pouvoir.
Le monsieur,
les
il a
femmes.
La santé. Merci de visualiser. Très bien, très bien. C'est très bien. Je vous rappelle que c'est une émission un peu chic de Saint-Valentin. Il y a un personnage très drôle que vous interprétez à merveille dans votre spectacle, Bérangère Krief, c'est votre mère. Alors, c'est paradoxal parce qu'on aimerait beaucoup la connaître et en même temps, on a peur de la croiser aussi. Alors, vous me dites que tout est vrai dans le spectacle. Est-ce que votre mère est vraie ?
Oui, ma mère est vraie. Et c'est surtout que parfois, il y a 2-3 phrases qu'elle a vraiment dit comme ça. Et je me dis, ça fait rire les gens, donc très bien. Mais en tout cas, donc, dans le spectacle, je parle des tutos de ma mère, des tutos de Véro, où elle propose un petit peu, vous voulez que je fasse un petit extrait du tuto de Véro ?
Ah oui.
Alors, elle dit coucou les ados, aujourd'hui dans les tutos de Véro, retrouvez notre dossier spécial Serial Killer. Vont-ils vous tuer ou juste vous violer si vous faites l'école buissonnière, avec un dossier spécial pour bien les classer en fonction de leur camionnette. Comment bien décrypter les petites annonces de boulot étudiant si on veut pas se retrouver en sashimi chez un cannibale japonais. Et enfin la question que tout le monde se pose, les bonbons des pédophiles font-ils grossir?
Son spectacle amour se joue au théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris du jeudi au dimanche. Ébouriffante Bérangère Krief, elle passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Pincement au cœur en perspective pour Eva Rock, puisque dans notre rubrique régionale géographique, nous partons aujourd'hui à Nice pour le lancement demain du carnaval. Carnaval toujours très hot pour les jeunes niçois, puisque c'est en marge de l'édition 87 entre le stand de Pissaladière et celui de Soca qu'Eva, probablement enivrée par les effluves d'oignons brûlants, s'était abandonnée dans les bras d'un Italien musculeux qui lui avait ramené de Vintimille une sublime montre signée Grolex.
Oh, ah, elle est
Elle est magnifique.
Et si vous faisiez un tour à Nice ce week-end, on vous donne envie juste après Cara Luciani, La Grenade sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Bérangère Krief, l'humoriste de l'amour, est avec nous cet après-midi. Notre spécial love continue dans la chaleur moite du studio Merlin. C'est peut-être mon charisme, mon magnétisme helvète, ou alors c'est peut-être juste que c'est la Saint-Valentin et qu'on est tous chauds comme si on sortait de tôle. Mais il y en a un qui est encore plus chaud que les autres, et pour cause, il vit à l'année à Nice. C'est notre correspondant en PACA, Frédéric Michel. Bonjour Frédéric.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Frédéric, à Nice, c'est une institution, un des moments forts de l'année. Le carnaval démarre demain, comme dirait une locale.
Il y a des préservatifs qui vont changer de couleur.
C'est joliment dit, c'est imagé, mais il faut se figurer la chose. Alors c'est le troisième carnaval au monde. Ce week-end débute la 136e édition déjà du carnaval de Nice. Alors Frédéric Michel, pendant 15 jours, Nice va être la capitale mondiale de la mode.
Effectivement, Mathieu, c'est le thème retenu cette année. Magnifique, dirait votre copine Christina, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de volume et des éléments qui rappellent la mode. Et on a hâte d'être à demain après-midi, au moment de la grande parade, pour enfin voir le roi avec ses lunettes noires à la Karl Lagerfeld et la reine coiffée d'une capeline sur laquelle poussent des palmiers et où le dôme du mythique Negresco a été reproduit. Alors, le roi et la reine de ce carnaval sont eux aussi très impatients de pouvoir prendre l'air. Pendant des mois, ils sont restés au secret dans des ateliers où des dizaines de petites mains leur ont donné vie. Ces chars articulés, ils sont près d'une vingtaine en 3D et qui grimpent pour certains jusqu'à 17 mètres de hauteur. Ces chars sont encore confectionnés par des Niçois passionnés. Chez les Povignat, 7 générations se sont déjà succédées. Pierre Povignat est la 5e génération et avec ses enfants et petits-enfants, il a conçu cette année le char du roi.
La construction, c'est à peu près 4 mois, 5 mois de l'année, mais après, on y travaille toute l'année, on y pense toute l'année. Et...
Il va ressembler à quoi alors ?
Il a un look très, très, très couturier, on va dire, en reprenant un peu des bases de plusieurs couturiers. La couture, c'est la France, donc il y a une tour Eiffel sur ce char-là, vous voyez, il y a plein de choses, des symboles qui font la couture.
Et en plus des chars, il y a les traditionnelles grosses têtes. Alors on va jouer, Mathieu, ou tout autour de la table, est-ce que vous êtes prêts ?
Allons-y,
est-ce que vous connaissez
allons-y.
Les fameuses grosses têtes en carton-pâte ? Combien de kilos pour une grosse tête ?
Une quarantaine ?
22.
Un peu moins. On est en fait à 10 kilos. Bah, vous avez
elles sont en quoi ?
Kilos, c'est important. En papier mâché, en carton-pâte, et vous avez des plus légères, plus modernes, à 4-5 kilos. Mais connaissez-vous la distance que parcourt un porteur de tête ? Là, c'est beaucoup plus impressionnant.
Il fait toute la promenade des Anglais ?
On n'était pas loin de 40 kilos, 8. C'est plutôt 40 kilomètres. C'est le parcours d'un marathon, près de 42 kilomètres.
Vous ne l'avez pas fait, ça ? Vous n'avez jamais été sous une grosse tête, Eva ? Si j'ose dire.
Non, je ne veux pas avoir la grosse tête, si vous voyez.
Très bien. L'an dernier, Frédéric, le carnaval de Nice a réuni plus de 200 000 personnes. C'est une véritable industrie pour la ville.
Oui, là, je parle à Emmanuel Duteil, qui s'y connaît bien. Effectivement, avec 30 millions d'euros de retombées économiques, 1800 emplois directs autour de la manifestation. C'est un énorme business, mais la magie continue à opérer. On a parlé il y a un instant du corso carnavalesque, mais le carnaval de Nice, ce sont aussi, et vous l'avez oublié, les batailles de fleurs, environ 3000 tiges par char, 20 tonnes de mimosa, et le carnaval est aussi dans la rue. D'ailleurs, je ne sais pas, Mathieu et Eva, ce que vous avez prévu comme déguisement, mais sachez que déguisé de la tête aux pieds, vous entrez sans payer, c'est le bon plan du carnaval de Nice.
Vous allez en tournée là-bas ou pas ?
Moi, j'ai de la famille à Nice et j'ai joué à Nice, mais l'été, j'ai jamais été au carnaval.
Ah, mais c'est sympa, le carnaval.
Mais je note, vraiment. J'adore. Ouais.
Et Emmanuel Duteil va être content parce qu'il y a même la reine d'Angleterre sur un char.
Oh, c'est vrai. Ouais. J'espère qu'elle est bien faite. Hein.
Oui, elle est très bien faite.
Bon, la reine d'Angleterre
fait son salut.
Est toujours bien faite. Merci Frédéric Michel.
Merci.
Bon retour à Nice, mon cher Frédéric. Allez, Duteil pour Frédéric, hip hip hip.
Jingme Kézar Nagel Wanchuk.
Non, juste Oura. L'équipe est sauvage spéciale Saint-Valentin va entrer dans une deuxième phase après les préliminaires. Eva, le plat de résistance.
Rôti, comme on dit.
Oui, non, essayons de rester du côté romantique de la Saint-Valentin. Eva, deux nouveaux prétendants à la couronne de chroniqueurs du jour vont nous rejoindre. Avec Alain Sirou, nous allons découvrir l'origine de l'or qui serait peut-être extraterrestre. Et avec notre veto Farah Kessri, nous allons découvrir les stratégies amoureuses des animaux. Évidemment, notre invité Bérangère Krief reste avec nous sur Europe 1. Et après mon léger lapsus d'hier, rapport au mercato à venir, j'insiste bien sur Europe 1. Elle sera la guest star du prochain épisode, mardi prochain, de votre série adorée Capitaine Marlowe sur France 3. Mélanie Douté passe l'après-midi sur TF. Sur TF. Bon bref, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Le public du studio Merlin est chaud comme une baraque à Soca du Vieux-Nice, une veille de carnaval. J'en vois même qui commence à se galocher. L'équipe est sauvage spéciale Saint-Valentin monte en puissance. Deux nouveaux concurrents vont nous rejoindre dans un instant. Un scientifique et une vétérinaire qui, à en croire leur gloussement libidineux hors antenne la dernière fois, doivent avoir hâte de se retrouver. Quant à nous, on a hâte d'étancher notre soif de savoir au robinet de leur connaissance.
Ah ouais.
Calmez-vous Eva, c'est une métaphore. Ce que je veux dire, c'est que chaque jour, notre émission, c'est pour vous la garantie de débats de fond, argumentés et portés par des journalistes qui savent de quoi ils parlent, comme hier Eva Rock sur les poissons et les éoliennes.
Les éoliennes qui sont implantées en mer, vous voyez ce que c'est? Ça pose des problèmes aussi pour les poissons, je suis désolée de vous dire ça.
À cause des bancs de poissons.
Parce qu'avec les courants, etc.
Il y a les bancs de poissons qui sont perturbés par ce pylône qui passe au milieu.
Ils peuvent contourner le pylône, ils sont pas complètement cons les poissons.
Le journalisme avec un grand J continue sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël. Vous n'écoutez pas n'importe quelle équipe est sauvage, vous écoutez l'équipe est sauvage spéciale Saint-Valentin en public avec Bérangère Krief. On parle d'amour depuis déjà plus d'une heure. Une moiteur torride s'est peu à peu installée dans le studio. Non mais Eva, qu'est-ce que vous faites avec votre culotte?
Il fait un petit peu chaud dans le studio. Et comme j'ai déjà enlevé ma veste...
Oh bon, alors, pendant qu'Eva se met à l'aise, la compétition continue. Bérangère Krief, que vous pouvez applaudir aux têtes de la Gaîté Montparnasse, et notre arbitre du jour. Voici Bérangère, deux nouveaux prétendants à la couronne de chroniqueur du jour. Normalement, pour présenter deux concurrents, je fous une musique... sportive, un peu Rocky quoi. Sauf quand ces deux concurrents ont passé la dernière émission à glousser bêtement comme deux ados biactolés après un coup de foudre à la récré. C'est donc plutôt au son de cette musique là qu'il nous faut les présenter. Voici Alain Sirou et Farah Kessri. D'un côté, une jeune vétérinaire glamour que vous retrouvez dans le magazine de la santé sur France 5. De l'autre, un scientifique aux lunettes de pédocriminel ukrainien qu'on croirait sorti d'un épisode de Tchernobyl sur Netflix. Entre eux, sur le papier, ça paraissait impossible. Seulement voilà, ma chère Bérangère, l'amour peut frapper n'importe qui, n'importe où, même en plein enregistrement d'une émission radio. Souvenez-vous.
Comment on fait pour que ça soit tendre?
On fait un bisou sur la joue.
Ça marche très bien. Moi, ça me fait fondre le cœur, là. C'est en rantaine, j'ai le droit de dire des trucs.
Alors, mes coquinous, de quoi vous nous parlez ce soir? On va commencer par vous, Farah Kessri.
Alors, bon, c'est tout simplement pour cette chronique. Si vous n'avez pas d'idée pour ce soir, eh bien, inspirez-vous des animaux parce qu'ils ont vraiment beaucoup plus d'imagination que certains hommes que je connais.
En termes de...
de parade amoureuse, Mathieu.
Parade
amoureuse.
Mais comment voulez-vous qu'on fasse la parade du pan si on n'a pas de...
Ah, pas forcément. Mais vous avez...
J'ai
je
cherché
vous donnerai une idée
pan,
spécialement
mais...
pour vous, vous allez voir.
Spécialement pour moi?
Oui, absolument, vous allez voir.
Intriguant.
Pourquoi vous avez pensé à la parade du pan tout de suite?
Oui, c'est vrai.
Parce qu'il est grand.
Bah, le pan, il parade pour faire l'amour, j'imagine.
Fait
il fait pas ça pour le plaisir, il fait ça pour choper la panne. Bref, alors... De votre côté, si vous ne vous êtes pas évanoui d'extase durant la chronique de Farah, de quoi comptez-vous nous parler?
Je compte vous parler de l'origine de l'or. Pourquoi? Parce qu'il y aura peut-être quelques cadeaux qui seront, je dirais, orifères. Et savez-vous que nous ne savons pas d'où vient l'or? Ou en tout cas, nous pensons qu'elle vient des étoiles, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je vais vous raconter cette énigme incroyable de ce que les Incas appelaient la sueur des dieux, c'est-à-dire l'or, qui est venu du ciel, mais dont on ne connaît pas l'origine réelle.
Alors, l'origine extraterrestre de l'or, ou bien les stratégies amoureuses des animaux, quel sujet vous passionnera le plus? Réponse juste avant 18h. En attendant, je me tourne vers notre invité. Qui est pour vous Bérangère Krief? Eh bien, on est allé vous poser la question. Voici non pas un micro-trottoir, toujours trafiqué pour flatter l'invité. Voici notre micro-trottrash. C'est quasiment la même chose, sauf qu'on n'a rien coupé.
Bérangère Krief. Une petite blonde, tatouée. Des petits tatouages mignons, rigolos.
Apprêtée, élégante, prestante.
Un humour un peu chic. Moi, je vois pas vulgaire. Sociale, assez chic.
Ah oui, c'est une humoriste, oui. Comique. Caustique.
Je crois que c'est une blonde.
Elle clash un peu les mecs, ouais. Ça les remet en place.
Ah là, je veux dans Bref, je crois.
Ouais, je l'aime beaucoup. Je dirais pas que c'est un humour qui est fin. Non, c'est un humour franc, voilà.
Et je crois, elle a un spectacle aussi.
Je la mets un peu, je sais pas si elle appréciera, mais je la mets un peu avec Blanche Gardin, même paquet.
Oui, les mecs, ils sont lourds quand ils draguent, ouais, c'est vrai.
Non, elle est pas dure. Je la trouve juste. Je trouve qu'elle sent bien l'époque.
Je sais pas si ton père c'est un voleur ou c'est un terroriste parce que t'es vraiment une bombe en fait. Celle-là elle est vraiment nulle.
Très jolie. Et hyper drôle. On est plus drôle que les garçons et les filles.
On n'est plus drôle que les garçons, les filles. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un humour masculin, un humour féminin ou pas du tout en fait? Enfin, c'est juste il y a des gens qui sont drôles et des gens qui sont pas drôles et leur sexe n'a rien à voir avec ça.
C'est une grande question. En fait, je crois que en fait on a chacun une part de féminin et de masculin. Pour moi, le masculin consiste à essayer de contourner ses émotions. Donc le rire, par exemple, l'humour, c'est une bonne façon de ne pas dire ce qu'on ressent vraiment. Et dans le féminin, y a d'autres choses qui peuvent être drôles. Par exemple, la sincérité d'une anecdote, quelque chose où il y a un peu d'émotion. Donc je pense que ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est que les femmes fassent de l'humour avec tout ce qu'elles ont de masculin et de féminin, mais pas d'essayer de faire comme les hommes. Et donc voilà, mais après c'est à chacun, il y a des femmes qui vont parler très fort, des hommes qui vont parler moins fort, donc il n'y a pas de, on ne peut pas faire de généralité, je crois.
Vous avez dit dernièrement...
C'est compliqué comme réponse un peu,
c'était compliqué, mais vous allez voir, je vais vous poser une autre question. Vous avez déclaré récemment, je me suis fabriqué ma propre case, quand je fais du théâtre déjà adolescente, on m'a catalogué dans la rubrique humour, j'étais la rigolote, mais malgré moi, on a appuyé sur le bouton drôle à ma place. Vous voulez dire par là?
En fait, moi, quand j'étais petite, je cherchais pas du tout à être drôle, en fait. Et les gens riaient de choses que je faisais, mais moi, avec une grande sincérité. Et je raconte souvent mon traumatisme du cours de théâtre. Voilà, on était dans le même cours de théâtre depuis mes 10 ans. Et à 15 ans, les filles de mon cours ont voulu faire un drame. Donc, on a monté la Maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca, qui est une œuvre très drôle.
Très poète-poète.
Très poète-poète. Cette jeune femme séquestrée par leur mère sous l'Espagne de Franco et qui sont amoureuse d'un mec à l'extérieur. Et en fait, l'après-midi, on a lu pour savoir qui allait jouer quel rôle. Et moi, j'ai lu à la prof, enfin, avec toute ma sincérité, parce que je voulais faire une jeune première. Et la prof a fait « Non, laisse Bérangère, on va te trouver autre chose !» Et je me rappelle de ne pas avoir essayé d'être drôle. Et je me suis dit « Ah bon ?» Et du coup, j'ai eu le rôle de la grand-mère folle qui parle à un mouton, qui était toute seule et tout. Et je pense... mon père a les images, il faudrait que je les revoie, parce que je pense que j'ai fait un one-man, mais sans le vouloir.
Comme moi qui rêvais de jouer Shakespeare, on a appuyé sur le bouton drôle à sa place. Bérangère Krief est notre invitée jusqu'à 18h. Europe 1. En ce jour de Saint-Valentin, que peuvent nous apprendre les stratégies amoureuses des animaux? Eh bien avant tout, qu'il ne faut jamais se précipiter. Prenons l'exemple de la fara à crête longue et du sirou à lunettes. Même quand l'attirance est forte, le mâle doit se montrer patient, au risque de choquer la femelle.
Je suis pas encore prête. Hein. J'ai pas envie.
Ce n'est pas du tout une obligation.
Ah bah très bien.
Fascinante nature, à tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Son nouveau spectacle s'appelle Amour. Bérangère Krief est l'invité d'honneur de l'équipe est sauvage, spécial Saint-Valentin. On continue de parler d'amour, mais la compétition fait rage. Voici notre troisième concurrente du jour. Déjà que mon fils voulait faire veto, depuis qu'il l'a vu, il veut encore plus faire veto. Farah Kasri, on vous retrouve chaque semaine sur France 5 dans le magazine de la santé et désormais dans l'équipée sauvage. Et on vous en remercie. Pour vous, c'est souvent un chemin de croix entre les plotis-plotas d'Alain Sirou et les désolantes remarques grivoises d'un animateur qui est visiblement resté bloqué à l'âge bête. C'était pourtant passionnant votre chronique sur le poulpe la dernière fois. Vraiment, je suis désolé.
Ils peuvent se contorsionner pour pouvoir passer, se faufiler dans des étroits passages. Large à peine de 3-4 cm de largeur.
Oula.
Ça permet aussi d'avoir quelques sensibilités au bout des ventouses, puisque ça renferme des capteurs sensoriels.
Oula. Farah, aujourd'hui promis, je vais fermer ma gueule durant votre chronique, même si vous nous parlez d'animaux qui se pécho.
Absolument, et si vous n'avez pas d'idée, inspirez-vous des animaux et prenez-en de la graine. Alors chez les primates, la plupart d'entre eux montrent soit leurs attributs, soit leurs forces. Si vous n'êtes pas sensible aux apparences, tournez-vous plutôt vers les oiseaux. Et l'un de mes préférés, c'est le paradisier syphilé. C'est un oiseau du paradis tout noir, avec des plumes noires, une petite collerette au niveau du cou et des antennes qu'on appelle les filets. Et pour plaire à la femelle, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à danser. Mais attention, il prépare sa chorégraphie. Il va gonfler les plumes qui sont au niveau de ses flancs pour former une petite jupette, gonfler les plumes qui sont autour de son cou pour former la collerette et faire bouger dans tous les sens les antennes pour créer une chorégraphie de la petite ballerine.
Mais il ressemble à Casimir, quoi. Et ça plaît à la femelle.
Moi, je trouve qu'il ressemble aux danseurs darwish, les Turcs. C'est assez joli. Il va tourner pendant des heures tout au long de la journée face à la femelle, hein, si elle est là, s'il y en a une, s'il y en a deux, s'il y en a trois qui passent par là. Et à ce moment-là, en fait, il va leur prouver son endurance, parce que l'endurance aussi, c'est un critère de sélection.
Et quand on n'est ni le plus beau, ni le meilleur des danseurs, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors là, on compense en faisant des cadeaux, mais en soignant la mise en scène. C'est le cas, encore une fois, des oiseaux, mais ce sont des oiseaux jardiniers, qu'on appelle les jardiniers bruns. Qu'est-ce qu'ils font ? Imaginez, en fait, ils vont construire au ras du sol un nid d'amour. On l'appelle le berceau nuptial. Imaginez une hutte faite de brindilles et de feuilles, à même le sol, avec une allée centrale comme un hôtel. Et au bout, à l'entrée de cet hôtel, eh bien, jonché sur le sol, vous allez voir...
Un voiturier.
Non, pas un voiturier, mais plusieurs petits cadeaux. Un tas de graines, un tas de fruits, un tas de pétales de fleurs. Il va les associer par couleur, par forme, et il va attendre patiemment qu'une femelle passe par là. Si la femelle est séduite par la mise en scène, elle acceptera de s'accoupler et forcément, le mâle sera bien
J'aime
content.
J'aime cette simplicité.
C'est très simple. C'est pas très compliqué. Mais attention, vous fiez pas aux apparences. C'est vraiment un Casanova parce que aussitôt la femelle repartie, il va refaire sa mise en scène pour une nouvelle conquête.
Ah, ah c'est pas mal. Bien joué. En fait, sa hutte, c'est une garçonnière, quoi, en gros.
Absolument. Et c'est alors, une garçonnière. Vous avez raison.
Pour ceux qui voudraient du romantisme pur.
Alors, mon préféré, c'est un poisson. C'est un poisson globe japonais.
Attention, vous parlez sous le contrôle des Varocs qui connaît bien les poissons, notamment leur rapport aux éoliennes.
Alors, les poissons globes japonais sont des petits poissons de 12 cm environ. Ils ont des petites nageoires caudales et pectorales. Et avec ces nageoires, qu'est-ce qu'il va faire, ce petit poisson mâle ? Il va creuser au fond de l'eau, au fond de la mer, le sable. Il va creuser des sillons. Il va transporter du sable pour former une œuvre éphémère. Il va former une rosace. Une rosace, c'est un peu comme un mandala de sable, au fond, extrêmement assez grand, puisqu'il va former une rosace de 2 mètres de diamètre, soit 20 fois sa taille. C'est comme si vous, Mathieu, du haut de vos 1,92 m, vous deviez construire pour votre...
Mais vous grandissez.
Oui, un peu, mais pour votre compagne, vous construisiez une œuvre éphémère de 40 mètres de haut. Vous avez du travail pour ce soir.
On peut toujours attendre, oui. Alors, non, il y a un truc incroyable dans ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est une œuvre esthétique. Donc, ça voudrait dire que les animaux sont capables d'art, ce qui serait un peu normalement.
Absolument. En fait, ils ont le sens de l'art. Après, est-ce qu'on sait s'ils ont conscience que leur œuvre est artistique ? Ça, c'est une autre histoire. En revanche, ils construisent effectivement quelque chose qui est beau pour attirer l'attention de la femelle. Les femelles sont sensibles au beau. Ça, c'est vrai. Et si jamais le poisson globe, lui, va former ses sillons et tout, c'est pour une raison bien précise. Si la femelle est séduite, elle va arriver, elle va pondre ses œufs au centre de la rosace, là où c'est protégé des courants marins. Le mâle va passer par là, déverser sa semence et il ne va pas partir. Il va rester pour garder et protéger les œufs qui ont été fécondés. Donc, c'est un bon papa aussi.
C'est aussi un bon papa. Eh bien, Farah, vous m'avez appris quelque chose, en tout cas beaucoup de choses, et notamment sur le fait que les animaux pouvaient être sensibles au beau.
Absolument.
Et ça, rien que pour ça, je vous dis merci. Merci, Farah Kessri. Alain, un petit message à passer à Farah, si possible codé, car vos conjoints respectifs nous écoutent.
Aristote disait « Personne ne peut se chatouiller tout seul ».
Oui, oui, un peu plus codé la prochaine fois, hein, s'il te plaît. Europe 1. Comment ferions-nous pour choisir un programme télé à regarder si Évaroc n'était pas là ? Eh bien, on achèterait Télé 7 jours, mais comme elle est là et qu'elle est payée pour ça, autant profiter de ses lumières. Les conseils Télé Déva arrivent juste après Mr. Matt, Girl Just Wanna Have Fun sur Europe 1.
16h, 18h, Mathieu Noël.
Le studio Merlin a des airs de Wembley aujourd'hui, puisque c'est un public en folie qui est venu acclamer Bérangère Krief. Actuellement sur la scène de la Gaîté Montparnasse à Paris du jeudi au dimanche. Et puisqu'on va parler série, je vous parle de Bref. Bref, la série réalisée par Cayenne Cojandi, qui vous a révélé au grand public, et je crois qu'il s'en est fallu de peu pour que vous passiez à côté. C'est quoi cette histoire ? Vous avez prévu des vacances ?
Kian m'appelle. À l'époque, on jouait pour des pizzas, donc on était vraiment, on allait dans les cafés-théâtres, on jouait nos sketchs, etc. Et il m'appelle en juillet pour me dire, voilà, on tourne un truc en août, est-ce que t'es là ? Et moi, je jouais beaucoup, et j'avais dit, je pose des vacances. J'avais dit, je pars, moi, du 1er au 15 août, comptez pas sur moi, je suis en relâche. Il me dit, ah, ok, bah, je vais voir... Il me rappelle, oui, on a besoin de toi début août. Je dis, mais combien de temps ? Ouais, ok, je te rappelle. Et moi, j'étais en train de dire non. Et le producteur de la série, Harry Tangeman, m'appelle. Il me dit, écoute, bon, je vais t'envoyer les textes. C'est vraiment super, c'est pour Canal+. Les garçons ont écrit pour toi. Vraiment, lis le rôle et tout. Et puis, j'ai lu, effectivement, et je me suis dit, bon, je ne partirai pas en vacances, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'était à deux doigts parce que Kian ne me le vendait pas du tout.
Ah ouais
Il me disait, c'était du 2 au 6 août. Et après, J'étais, non mais c'est quoi, c'est... Parce que des copains qui faisaient des vidéos, c'était, est-ce que je passe derrière, est-ce que, qu'est-ce que j'ai à défendre en fait, c'était ça que je voulais savoir.
Face à vous, ma chère Bérangère, une femme qui passe beaucoup trop de temps devant la télé, c'est mais vrai. C'est en train de changer puisqu'elle a pris la bonne résolution de s'inscrire sur Marmite Love, le premier site de rencontre par affinité culinaire. On fait un petit point là-dessus, Eva, avant de nous dire ce qu'on regarde à la télé.
Un petit point, donc j'ai qu'est-ce eu quelques messages apparemment, ouais. Mais comme c'est pas moi qui réponds, puisque donc, mes confrères ont décidé de répondre à ma place et ont même donné mon numéro de téléphone de poste fixe du travail, évidemment. Je les remercie encore.
Donc ouais. Vous ne conseillez pas ce site aux gens qui vous écoutent?
Pour l'instant, non, j'ai que des psychopathes. Donc
on reste sur Tinder. Merci. Oui, alors, ma chère Eva,
oui.
Vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais on perd tous 17 minutes soir à s'engueuler avec son conjoint pour choisir ce qu'on va regarder sur Netflix.
Ah ouais,
c'est une étude de l'université d'Oxford. En tout cas, c'est ce qui me semble. Heureusement, Dieu a créé 17 minutes de gagner, la rubrique des Varocs.
Alors figurez-vous que pour ce soir, j'ai pas encore regardé le programme. Parce qu'en fait...
Bienvenue chez les professionnels.
Oui, c'était pour vous faire rire. Non, parce que ce soir seront remis les 35e victoires de la musique. Ce sera en direct sur France 2. Cérémonie présentée par plusieurs animateurs du service public. Et l'atout principal de ce genre de soirée, c'est voir des artistes en live. On est bien d'accord, c'est quand même le principal avantage. Parfois, il ne faudrait pas. Mais enfin bon, comme dans l'équipe estivage, on aime bien apprendre des choses. Je vous ai préparé un petit test de culture sur les victoires de la musique. Alors, on va jouer tous ensemble. Ouais. Les victoires sont donc nées en 1985 et la soirée a été présentée par un chanteur français. La première édition. Alors, imagine, on est dans les années 80. C'est une star de la chanson française
Jean-Jacques
à ce moment-là.
Goldman.
Non, pas Jean-Jacques Goldman.
Michel Sardou.
Mais dans le même, dans le même cercle. Ouais.
Patrick Bruel.
Non.
Ah, Daniel Balavoine.
Oui, Daniel Balavoine pour la première édition. C'était Renaud pour la deuxième édition. Il faudra attendre.
C'était
des chanteurs qui
Renaud
présentaient.
Renaud qui était l'animateur.
Exactement. Il faut attendre la quatrième édition pour qu'un animateur télé prenne les rênes de la cérémonie. C'était pas Michel Drucker le premier, c'était Patrick Sabatier. C'est une star internationale qui est invitée d'honneur en 1986 et qui le sera encore d'ailleurs 10 ans plus tard. Il est américain et ses premiers succès datent des années 60. D'après vous?
Je suis nulle.
Un peu dur.
Sting qui?
Années 60, c'est ses premiers tubes.
C'est vieux, hein.
Ouais, et en 86, c'est encore une star internationale.
C'est un Américain ?
Oui, il est décédé.
Ah, il est décédé.
Ah, mince, c'est lui.
George.
Oh, oui, Ray Charles.
Eh oui.
Georgia.
En 96, il revient avec Tina Turner comme invité d'honneur des victoires. Mais d'après vous, quel est l'artiste français qui compte le plus de victoires ?
Bah, Jean-Jacques Goldman.
Non.
Ah non ?
Non, c'est pas Jean-Jacques Goldman, c'est ce monsieur.
Un jour je t'aimerai moi.
Ah oui.
Alain Bachung,
exactement. En 2009, il chantait Les Résidents de la République, extrait de son album Bleu Pétrole. Il était reparti avec 3 victoires et ce sera sa dernière apparition publique parce qu'il est décédé 15 jours après la cérémonie. Et puis vous savez, pas de victoire sans générique. Vous connaissez ce générique?
Moi je l'aime bien ce générique.
Il est bien, hein. Il est signé Jean-Claude Petit, grand compositeur notamment de générique mais aussi de grande musique. Il est à l'origine d'un autre générique cultissime qui a bercé notre enfance, en tout cas la mienne, d'une autre émission, immense émission, d'après vous.
Bah, si ça a bercé votre enfance, j'étais pas là. Hein.
C'est pas l'émission de Michel Drucker, non?
Oui, l'émission de Michel Drucker.
Ah, Champs-Élysées.
J'ai tenu sa patte.
Et voilà.
Non, mais c'est vrai.
C'est vrai.
Ah, oui.
Il a vraiment son style, hein.
Et voilà. Les 35e victoires de la musique, c'est ce soir sur France 2. C'est à 21h05 et c'est en direct, évidemment.
Et voilà, 17 minutes de gagné. Merci beaucoup, Eva Rock. Bijoux, boucles d'oreilles, colliers, l'or est le métal de l'amour. Mais d'où vient l'or? Peut-être comme Alain Sirou, des confins de l'espace. Alain, l'un des plus performants journalistes d'Europe 1, qui avait passionné Monsieur Poulpe mercredi avec son sujet sur les tempêtes solaires.
Le vent solaire, c'est un flux de particules qui sont émis par des tempêtes solaires. Pourquoi est-ce qu'il a des tempêtes?
Parce qu'il a mangé indien.
Alain, Sirou arrive avec un nouveau sujet.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, spécial Saint-Valentin, bat son plein dans un studio Merlin, plein lui aussi. Et en présence de Bérangère Krief, actuellement sur la scène de la Gaîté Montparnasse à Paris. Bérangère qui a l'air de kiffer l'ambiance de notre émission.
Il y a une petite ambiance douce, j'allais dire salle d'attente de gynéco, mais c'est plus chaleureuse.
Super. Alors, Bérangère, l'heure est venue de céder le micro à notre ultime concurrent du jour. Belle réactivité de la réalisation. Il est un de nos journalistes les plus rigoureux. Pour chaque chronique, il passe plusieurs heures devant son écran d'ordinateur à explorer le net à la recherche d'infos, souvent en mode navigation privée.
La branlette turque, c'est quoi ça?
Oui, bref, alors Alain Sirou, pour notre spécial Saint-Valentin, vous avez choisi de nous parler du métal de l'amour par excellence, l'or.
Oui, c'est symbolique l'or. Si, Bérangère, je vous offre de l'or pour la Saint-Valentin, c'est parce qu'il est rare, comme notre amour finalement.
Vous pouvez pas le couper si je viens trop loin.
C'est symbolique.
C'est comme le dernier animal là qui.
C'est comme cet animal.
Il continue sa mise en scène. Il a rangé un peu
un jardinier brun.
J'ai bien écouté. Il est rare, vraiment très rare, et c'est pour ça qu'il vaut cher. D'ailleurs, si on regardait tout l'or récolté par les chercheurs d'or sur la Terre depuis que l'homme est là, ça serait juste un cube de 20 mètres sur 20 mètres. Vous voyez, c'est pas beaucoup.
Non.
Ah ouais, ouais.
Vous êtes sûr de ce chiffre, Alain?
Certain. Parce que c'est très, très rare. En fait, l'or, on le trouve vraiment dans des filons aurifères. Il faut vraiment... très précisément, je crois que c'est... 1 mg par tonne de roche qu'on trouve de l'or sur Terre.
Ah,
et ce que l'on sait, c'est qu'il ne vient pas de la Terre. Il n'a pas été fabriqué sur Terre. Personne ne fabrique de l'or, pas plus qu'on fabrique de l'uranium, de l'argent, enfin des produits lourds, tout simplement parce que quand vous regardez un atome d'or, c'est 79 protons et 118 neutrons. Voilà, vous êtes au courant maintenant, vous savez tout. Pour fabriquer ça, il faut une énergie colossale. C'est-à-dire des milliards de degrés, et ça, on ne sait pas faire. Donc,
le soleil, peut-être, Alain. Alors, c'est une hypothèse que je lance comme ça. Et si on nous écoute à la NASA, peut-être qu'ils rebondiront dessus.
Eh bien, figurez-vous qu'on y a pensé, mais qu'il n'est pas assez chaud. Et que pour que ça soit suffisamment chaud, il faut que ça se passe à l'intérieur d'étoiles qui explosent, ce qu'on appelle des supernovas. Au moment où la supernova explose, alors il y a des milliards de degrés, et à ce moment-là, les composés qui sont à l'intérieur se transforment et peuvent fabriquer de l'or. Mais là, encore une fois, il n'y en a pas assez non plus. Donc, ce qu'on a pensé, c'est que ce qui restait de l'étoile qui avait explosé, ce qu'on appelle une étoile à neutrons, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très, très dense, de très, très costaud et tout, pouvait rentrer en collision avec une autre étoile à neutrons. Alors là, je vous emmène, hein, vous êtes dans l'espace, vous avez deux résidus d'étoiles qui ont explosé et qui vont rentrer en collision et qui vont créer, par une violence inouïe, une énergie colossale, une température incroyable, à la fois une vibration de l'espace-temps qui va bouger et en même temps créer de l'or et des tas de produits très compliqués. Et ça, on l'a vu, on l'a entendu, on a enregistré ces mouvements de l'espace-temps. Sauf que, alors si, une chose importante, on a même calculé combien d'or il se fabriquait à ce moment-là. Et figurez-vous que c'est l'équivalent de 10 fois la Lune en masse. 10 pleines lunes. 10 lunes, en fait, en or. C'est, voilà, le résultat de la collision entre ces deux étoiles.
Bah là, celui qui chope ça, il est blindé, ensuite.
Oui, sauf que ça ne suffit pas. Et ça, c'est extraordinaire, c'est qu'on s'est dit que... Parce qu'en fait, ce genre de collision, ça arrive une fois tous les 100 000 ans dans la galaxie. Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, il faut trouver autre chose. Et la dernière investigation, on n'est pas encore complètement sûr que ça fonctionne comme ça, mais c'est l'idée qu'une sorte d'étoile très grosse... Vous savez, les étoiles, c'est... le Soleil est une bonne étoile... Mais on trouve des étoiles qui sont plusieurs centaines de fois plus grosses que le Soleil. Bien, lorsque certaines de ces étoiles meurent, elles se transforment en trous noirs. C'est-à-dire un monstre de gravité qui fait qu'on ne peut même plus décrire ce qui se passe à l'intérieur. C'est que des infinis, en quelque sorte. Et autour de ce trou noir, il y a un disque de débris qui se crée. Et dans ce disque de débris qui tourne à très, très grande vitesse avec des énergies incroyables, pourrait se fabriquer tout l'or qui manque. Et là, on fait des calculs et on trouve que, finalement, c'est très productif. Et ce disque de débris partirait dans l'espace et irait ensemencer les étoiles futures, les planètes futures, dont, par exemple, la Terre. Alors voilà, je vous ai emmené dans des collisions d'étoiles, au bord des trous noirs. Je vous ai montré, finalement, des milliards d'années aussi à travers ce petit bijou. Vous montrer à quel point il est rare et vous dire que, finalement, vous ne pourrez plus jamais regarder l'or de la même façon. Vous saurez vraiment que c'est un cadeau si on vous l'offre qui vient du ciel et qui a été fabriqué, forgé dans les étoiles.
Wow. Alain, vous ne faites pas souvent des chroniques pourries, mais celle-ci était vraiment bien. Bravo Alain Sirou.
Bravo, c'est incroyable.
À suivre, ne pas avoir d'idée de recette en temps normal, ce n'est pas très grave, car...
Heureusement, il n'y a pas de...
Mais un soir de Saint-Valentin, ne pas avoir d'idée de recette la foutrait carrément mal. Comme je n'ai pas la chance de sortir avec Bérangère Krief, la meuf la plus cool du monde, qui je suis sûr si je lui demandais « Chérie, ce soir pour notre dîner aux chandelles, qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Elle me répondrait
« J'hésite entre coquillettes jambon et poisson panéry. »
Comme, hélas, je ne suis pas en couple avec Bérangère, je compte beaucoup sur Delice in Extremis, la recette qui va sacrément nous sauver la mise ce soir. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
C'est le rush final. Un peu comme quand Eva Rock a dîné avec un mec rencontré sur Mad Meat Love, qu'elle l'a ramené chez elle et qu'elle découvre au moment fatidique qu'elle a bien fait de le ramener chez elle.
Oh, pas mal.
Vous l'avez compris. Et vous visualisez, en ce jour de Saint-Valentin, c'est une équipée sauvage spéciale romantisme que nous vous proposons en public. Épilogue d'une belle semaine, tout entière placée sous le signe du glamour, hier encore avec la sublime Mélanie Douté, le sourire de Julia Roberts, le rire de Patrick Sébastien.
Ah, c'était magnifique.
C'était où en Corse ?
C'était...
Mais tu sais pas où c'était exactement ?
Oh, ça va, je t'ai conduit tous les matins, je suis une actrice, hein, je sais pas non plus.
Aujourd'hui, c'est une autre pointure du rire qui passe l'après-midi avec nous, Bérangère Krief, qu'on peut découvrir au Théâtre de la Gaîté Montparnasse du jeudi au dimanche et bientôt en tournée. Bérangère, ça commence quand la tournée ?
Septembre.
Ah oui, on a encore largement le temps. Vous avez le temps de bien remplir à Paris, si j'ose dire. Quand je découvre vos rituels d'écriture, à savoir, alors je sais pas si c'est vrai, hein, vous l'avez déclaré, vous couchez à 23h, menez une vie de moine tibétain en vous levant entre 6 et 7h, en saluant le soleil, en faisant des exercices de yoga, du sport. Et quand j'apprends le coaching diététique et sportif que vous avez suivi pour assurer le spectacle, je me dis, c'est vrai ou c'est du bluff ?
Non, non. Bah, franchement, je suis devenue vraiment cette meuf, quoi.
C'est vrai ?
Je suis, j'adore me coucher tôt, me lever tôt, voir le soleil se lever, faire du yoga. Et après, avec le cerceau, c'était obligé. C'est-à-dire que le cerceau aérien, en fait, tu soulèves ton propre poids. Donc, moins t'en as, c'est facile. Donc, j'ai fait un coaching. Mais pour moi aussi, après, je dis toujours, j'ai perdu 6 kilos, personne ne l'a vu. Mais moi, je me sens mieux dans mes vêtements. Le but n'est pas d'être sculptural ou j'en sais rien. C'était moi de me sentir bien dans mon corps, de bien manger, de manger des bonnes choses. Et donc, oui, on a oublié cette Bérangère qui dormait 5 heures.
Elle est loin, elle a disparu.
Des Moritos et Yalla. Mais non, non, ça s'est terminé. Mais voilà, c'est vrai que c'est une hygiène de vie. Bon, bah, après, on a l'air d'être un peu chiant quand on a une bonne hygiène de vie. Ça devrait être... J'aimerais être sympa.
Mais Eva ne vous juge pas.
Non.
A-t-elle vraiment
moi
une
aussi,
vie...
Moi aussi, j'ai une hygiène de vie... Ah bah
si,
j'ai
une hygiène de
vie. Ah bah oui. Mais vraiment, Mathieu Noël, bah évidemment.
Mais moi, je peux plus, là, c'est terminé.
Bien sûr. Mais je suis trop vieille, en plus. Allez, continuez votre émission.
C'est-à-dire que rarement, vous m'avez laissé quoi, comme
mais
ça ?
C'est vrai, je suis impressionnée.
Ouais. Et vous voulez que je raconte votre vie aux gens ou
non, pas du tout.
Vous voulez
non,
continuer
non.
dans le mytho, comme
non.
ça ?
Non, je suis pas mytho, non, allez-y.
A-t-elle vraiment une vie si monastique qu'elle le prétend ? Eva, ne préjugeons pas. Bérangère Krief est avec nous jusqu'à 18h. L'année dernière, pour la Saint-Valentin, il avait sorti le grand jeu à sa femme. En lui préparant des œufs au plat à la truffe qu'il avait fait frire directement sur le ventre brûlant de sa partenaire. Oui, Bérangère, si vous ne connaissez pas encore Olivier Pouls, notre expert gastronomique, c'est que vous ne connaissez rien à l'amour. Delice in Extremis arrive. Après Suzanne, il est où le SAV sur Europe 1 ?
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage spéciale Saint-Valentin, c'est bientôt terminé. Mais il est à notre émission ce que les mignardises sont à un bon repas. Je vous demande d'accueillir le lover de Namur, le Casanova de la frite molle. Mesdames et messieurs, cher Bérangère Krief, notre expert gastronomique Olivier Pouls.
Ouais.
Figure du romantisme belge, il est avec les femmes la classe incarnée, comme il l'a encore prouvé hier avec Mélanie Douté. Qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui à Mélanie Douté ?
Eh bien, pourquoi pas des croque-monsieur, parce que...
Ça va pas, je vous inspire un truc de dingue.
Mais non. Non mais...
On va se faire chier.
Alors Olivier, ce soir, c'est quand même la Saint-Valentin, alors j'espère que Bérangère Krief, elle, vous a inspiré autre chose qu'un croque-monsieur.
La Saint-Valentin en biche, c'est bien un truc ce soir que vous ne pouvez pas rater, c'est votre recette,
ah
bien sûr. Alors on peut oublier la petite babiole du manège à bijoux ou éventuellement le bouquet de roses, mais pas la recette. Alors
non.
Pour la recette, il y a deux solutions. Soit la technique Mathieu Noël, hein, 500 grammes de caviar, une bouteille de cristal de Rosemère. Il n'y a pas de faute de goût.
Ou ils vous appellent vous pour que vous fassiez à manger.
Ou alors, sinon, un coup de fil, le coup de fil à un ami.
Oui, ou le coup de fil à un ami. Et sinon, pour Bérangère, je lui proposerais bien de partager un chirashi.
Ah
oui. Délicieux plat japonais, facile, rapide et pas trop cher. Alors, qu'est-ce que c'est que le chirashi? C'est en fait littéralement
pas trop cher, classe vis-à-vis de Béranger. Vous bien la pécho, mais il ne faut pas que ça vous coûte trop cher non plus. Quoi. Ça, c'est vraiment la classe made in pulse.
Soit je suis avec un radin, soit je suis radine. Mais il y a un truc...
On fera un chirashi au caviar, Mathieu. Ça marche aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que le chirashi? En fait, c'est littéralement un sushi à la façon des frères Wolfoni, c'est-à-dire éclaté façon puzzle et mis dans un bol. Donc, ce sont les mêmes ingrédients qu'on retrouve dans les sushis. Le seul petit truc un petit peu compliqué, un petit peu technique, c'est la cuisson du riz. C'est réussir son riz. Alors, on prend du riz rond japonais, du riz à sushi, qu'on cuit dans un volume.
Excusez-moi, mais ça se trouve où, le riz à sushi?
Dans n'importe quelle épicerie japonaise. Riz à sushi.
Non, mais même,
même en supermarché, ouais, même on en trouve aujourd'hui. Ah bon, riz à sushi. Alors, il faut bien le laver avant de l'utiliser, de manière à enlever l'amidon. On le cuit dans le même volume d'eau. Alors, cuisson dans une casserole avec le couvercle, 10 minutes sur le feu. Ensuite, on arrête le feu et on laisse encore 10 minutes, le temps que le riz s'imprègne et finisse de gonfler. Et on fait une petite préparation à base de vinaigre de riz, 2 cuillères de vinaigre de riz, 1/2 cuillère de sucre, et quelques petites gouttes, alors là, il faut que je retrouve mon truc. Et
le professionnalisme, toujours.
Et une toute petite pincée de sel. On porte le vinaigre.
Heureusement que tu l'avais noté dans ton carnet, parce que c'était dur de s'en souvenir. Quel est cet ingrédient? Quel est cet ingrédient rare, connu de seulement les plus grands chefs?
Ingrédients. Petite pincée de sel. Et donc, on rajoute cette préparation, on fait bouillir le vinaigre, on rajoute le sucre et le sel, et on rajoute ça au riz. Et ensuite, il n'y a plus qu'à disposer au-dessus du bol alors des morceaux de poisson cru, par exemple du saumon, du thon. On peut disposer aussi des queues de crevettes, par exemple. Et puis des légumes qu'on va couper, comme par exemple des concombres. On peut utiliser des avocats. Et on va faire un joli plat. Et on va terminer en versant un petit peu de sauce soja et quelques petits grains de sésame.
C'est vendredi.
C'est vendredi. Mais
Olive, t'as commencé l'apéro à quelle heure aujourd'hui? C'est pas possible.
Non, mais c'est bon, j'ai pas encore commencé le saké qui va avec.
Ah oui, et qu'est-ce qu'on boit avec? On boit du saké ou on peut boire du vin?
Non, on peut boire du vin, on peut boire une jolie coupe de champagne, là, par exemple. Ouais. Pour le coup, on va ouvrir une belle bouteille de champagne.
Mais pas trop cher non plus. Une demi-bouteille suffira.
Boire trop, non.
Merci. Une demi-bouteille de crémant fera la fin.
Quelle classe. Olivier Pouls, mesdames et messieurs, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Dans quelques instants, nous allons nous quitter. Chacun va retourner à sa vie. Bérangère va aller faire du yoga. Alain et Farah vont réserver une table chez Pizza Pino. Quant à Eva, dans quelques heures, elle sera dans les bras d'un amant rencontré sur Marmite Love, à qui elle susurrera des paroles romantiques.
M'a visé la bouche.
Oui, magie de la Saint-Valentin. Mais avant cela, mes agneaux, il va falloir voter. A tout de suite pour la grande finale.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Notre spécial Saint-Valentin s'achève. Parmi nos 4 journalistes en compétition ce soir, qui sera élu chroniqueur du jour? Voici ce moment toujours très gênant où nos journalistes tentent de faire de l'humour pour que l'invité vote pour eux, ce qui généralement a un effet contre-productif, comme Anne Le Gall l'a découvert hier à ses dépens avec Mélanie Doutet.
Moi j'ai pris la défense des éoliennes et j'aimerais bien ne pas me prendre un vent.
Pas mal.
Nos journalistes ont 10 secondes pour défendre leur dossier. Alain Siroux, pourquoi Bérangère Krief devrait-elle voter pour vous?
Pourquoi commencer par moi? C'est difficile. Non, je citerai un proverbe russe.
Le mec, il a tout préparé en fait. Pourquoi commencer par moi? Je suis pris au dépourvu. Oui, Tolstoï disait.
Il dit, même dans une cage en or, le rossignol regrette son bosquet.
C'est très beau, Alain. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est très beau. C'est très russe, en tout cas.
J'ai compris.
Nicolas Carreau, pourquoi voter pour vous?
Parce que j'ai parlé d'amour le jour de la Saint-Valentin. Je trouve que c'est quand même malin.
Ah non.
Emmanuel Duteil.
Parce que je mets beaucoup de passion dans des sujets qui désintéressent tout le monde.
Farah Kasri.
Parce que vous avez bien compris que Alain Siroux, finalement, c'est juste un jardinier brun qui passe très très vite à une autre conquête et que moi, c'est une valeur sûre. Je vais sauver des couples ce soir.
Farah, qu'on sent un petit peu écœuré par le comportement un peu dégueulasse d'Alain Siroux qui papillonne beaucoup. Eva, dévalons d'abord le choix de nos auditeurs.
Alors, le choix de nos auditeurs, c'est pour Emmanuel Duteil.
Emmanuel Duteil.
Comme quoi, vous voyez.
Dévoilons maintenant le vote du public.
Ah, c'est Alain Siroux avec l'or.
Ah, Alain Siroux. Mais attention, hein, Je ne sais pas si le public a compris, parce qu'Alain fait toujours des cadeaux ou des pots de vin au public.
Oui,
il
ne
va pas,
d'or,
il va pas vous filer le bracelet en or qu'il agite depuis tout à l'heure. Hein. Ça, vous ne pouvez pas le ramener à la maison.
Donc 2 points pour Emmanuel Duteil et 2 points pour Alain Sirou.
Pour ma part, je donne mes points aujourd'hui. Ça a été vraiment entre les deux nouveaux amants de l'émission, Alain Sirou et Farah, ça a été très dur, mais je suis obligé de donner mon point aujourd'hui à Alain Sirou parce que j'ai appris beaucoup de choses dans cette chronique sur l'or. Je ne savais même pas qu'il était d'origine extraterrestre. Mais vous le savez ici, c'est l'invité qui a le dernier mot, ma chère Bérangère Krief. Oui. Qui, selon vous, mérite...
Quel coutume local chelou.
C'est très, très bizarre, hein. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Qui mérite de remporter notre spécial Saint-Valentin?
Déjà, je voudrais dire que j'ai appris plein de choses en vous écoutant tous. J'ai l'impression d'être Nico Saliaga, ça a pas le temps. J'en fais des caisses. Non, mais c'était très intéressant. Moi, aujourd'hui, dans ma vie de moine tibétain, j'écoute beaucoup mon intuition. Et mon intuition me dit Alain.
Oh. Eh oui.
Et Alain Sirou remporte de la 116e journée de l'équipe sauvage avec 6 points en plus. On remercie notre invité Bérangère Krief, actuellement sur la scène du TED de la Gaîté Montparnasse à Paris du jeudi au dimanche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bérangère, aujourd'hui. Merci également à mes équipiers du jour, Eva Rock, Farah Kestri, Alain Sirou, Nicolas Caro, Emmanuel Duteil. L'équipe sauvage revient demain 16h.